c'est une épître extrêmement précise dans chacun des termes que Paul utilise. Il y a deux grandes parties. La première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 4 et qui consiste en l'explication aux chrétiens, aux saints, de leur position en Christ, de qui ils sont, d'où ils viennent, et ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Et la deuxième partie qui est une application plus pratique, en conséquence de ce que Dieu a fait pour vous et de ce qu'il est pour vous, faites ceci, accomplissez cela. Et donc il y a, à partir du chapitre 4, beaucoup d'impératifs, beaucoup d'injonctions. Ne faites pas ceci, faites cela. Marchez, enfants, obéissez. Il y a toutes ces choses-là. Cette épître parle de l'Église. Elle parle de la relation de Dieu avec son peuple. Dans l'introduction, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints. L'Église est la volonté de Dieu pour les saints. L'Église, c'est une création de Dieu, une conception de Dieu. Élu avant la fondation du monde, au verset 4. C'est quelque chose qui est pensé depuis bien longtemps. Mais quand je dis longtemps, on entend le mot temps. Et en Dieu, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps de Dieu est un temps incompréhensible pour l'homme. Le nom de Dieu est un nom incompréhensible pour l'homme. Dans Exode 3, au verset 18, je crois, lorsque Moïse dit à Dieu, mais comment est-ce que, de la part de qui je parle au peuple ? Dieu dit, tu répondras ceci, je suis celui qui suis. Et je suis celui qui suis, c'est une traduction de quelque chose qui est intraduisible. Parce que je suis, ça signifie l'incompréhensible. Je suis l'incompréhensible. Je suis Yahvé. Et lorsque je dis Yahvé, c'est encore une interprétation de qui est Dieu. Parce qu'en réalité, ce sont quatre voyelles qu'on ne peut pas prononcer si l'on ne met pas des consonnes entre les deux. Et donc, Dieu est incompréhensible. L'éternité de Dieu est incompréhensible. Et pourtant, de là, Dieu a mis tout en œuvre pour que nous puissions le comprendre malgré tout. Il s'est donné des noms. Il s'est donné des attributs. Plus tard, il s'est donné un corps. Il a accompli des œuvres afin que nous puissions un tant soit peu le cerner. Mais je commence par vous dire que ces choses sont incompréhensibles parce que Dieu veut nous faire entrer dans des dimensions de vie qui peuvent nous sembler inaccessibles. Une plénitude, parce que c'est de cela dont il s'agit. Qui peut nous sembler inaccessible parce que nous sommes limités par le temps. Mais Dieu ne l'est pas. Et pour accomplir de grandes choses, il faut un grand Dieu. et c'est de lui dont il s'agit. Ce matin, c'est de lui dont il s'agit dans nos vies au quotidien. C'est l'immensité de Dieu dont il s'agit lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu en l'homme. Je vous encourage à méditer sur Dieu, sur qui il est, sur l'incompréhension de Dieu. Ça rend humble, on va dire, que de s'apercevoir que lorsqu'on pense avoir commencé à cerner Dieu, on s'aperçoit qu'on a gratté un tout petit peu de quelque chose de la vérité. Dans cet épître, Dieu parle donc de la conception de l'Église, aussi de la construction de l'Église, et aussi de sa destinée éternelle, de son accomplissement dans l'éternité. Souvent, on ramène toutes les choses que Dieu fait à notre propre personne. On ramène ça à l'individu. Et, merci Seigneur, on peut et on doit le voir comme ça parce qu'avant tout, nous sommes sauvés individuellement. Mais Dieu a un plan qui est vaste, qui concerne toute l'humanité, mais qui concerne aussi les puissances et les dominations. Et l'Église a un rôle à jouer dans ce qu'elle doit montrer aux puissances et aux dominations sur la terre. Et c'est là une des raisons de l'Église. J'aimerais que nous lisions un passage assez petit et pas nécessairement significatif dans cet épître. Au chapitre 3 et au verset 13 jusqu'au verset 19. Il s'agit d'une des deux ou trois prières, je ne sais plus, que Paul a fait dans cet épître. Chapitre 3, verset 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est donc une prière que l'apôtre Paul adresse à Dieu pour les saints qui sont à Éphèse. C'est une prière qui nous concerne. C'est une prière que je fais pour vous. C'est une prière que vous faites pour moi, n'est-ce pas? À chaque fois que vous la lisez, vous pensez à moi. Mais on peut le lire comme ça. Voilà, j'aimerais juste aller le long de ce texte et prendre quelques-uns des termes qui sont donnés là et juste, alors que j'ai médité dessus, essayer de vous en parler. C'est pas nécessairement très bien construit, mais voilà, je vais dire comme Jean-Paul, le Seigneur vous dira les choses qu'il doit vous dire. Verset 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. » Il dit ça à cause de tout ce qu'il a dit avant. Il dit ça à cause de tout ce que Dieu a fait, à cause de la vie en Christ, à cause de tout ce que Dieu a fourni, nous a fourni, comme éléments pour vivre la vie chrétienne. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Les circonstances de nos vies et les uns et les autres, nous avons chacun des choses où, si je prenais chacun, vous pourriez me dire, moi, il y a ça dans ma vie. Il y a cette situation terrible et catastrophique qui m'arrive. Il y a ces choses-là que je ne comprends pas qui interviennent régulièrement. Qui fait que je perds courage régulièrement. Les circonstances de ma vie sont telles que j'ai fini par me relâcher dans ma foi. Que je finis par ne plus arriver à vivre comme dans les premiers jours. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé. J'ai l'impression que je perds la foi. J'ai l'impression que ma relation avec Dieu est brisée. Et Paul dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai commencé à côtoyer des hommes de Dieu, certains que je trouvais absolument merveilleux, que je pouvais comparer à l'apôtre Paul. Un jour, j'ai fait une prière et j'ai dit, Seigneur, j'ai beaucoup d'admiration pour ces hommes et ces femmes qui prêchent la parole de Dieu. Mais Seigneur, si eux tombent un jour, fais que moi je puisse résister. Si eux, alors qu'ils sont des exemples, alors qu'ils sont une merveille de ta création, dans tout ce qu'ils me montrent, si eux chutent et tombent, préserve-moi d'être entraîné dans cette chute avec eux. Vous comprenez? Lorsqu'on admire quelqu'un et que on voit qu'il se détourne de la foi, et lorsque c'est arrivé dans des églises, lorsque les dirigeants ou les pasteurs se sont détournés de la foi, c'est beaucoup de monde qui s'est détourné de la foi ou qui a été perturbé profondément à cause de leur départ et à cause de leur mauvaise attitude. Je l'ai toujours dit, la preuve que Keith a vraiment accompli l'œuvre du Seigneur ici, c'est que à son départ, l'Église a tenu. Mais elle n'a pas tenu tout juste. Mais elle a tenu. Simplement parce qu'il n'a pas dirigé les gens vers lui-même, mais vers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons tous être reconnaissants de cela. L'apôtre Paul avait conscience que sa souffrance, le fait que lui, parce qu'il était en prison lorsqu'il écrivait, n'est-ce pas? Il était à Rome, dans les années 60, enfin, en l'an 60 à peu près. Pas les années 60, mais il était en prison. Et imaginez ces groupes de chrétiens, nécessairement jeunes dans la foi, pour la plupart, sachant que leur conducteur est en prison. Mais quelle est la logique de tout ça, ô Dieu ? À quoi ça nous sert d'avoir un conducteur en prison ? À quoi ça nous sert d'avoir un apôtre en prison ? Paul priait pour que leur foi ne soit pas ébranlée. La foi doit être personnelle, fondée sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle ne doit pas être la foi d'un autre. La foi des autres doit nous inspirer. C'est normal, la foi de l'apôtre Paul nous inspire. La foi de tous les grands hommes de Dieu doit nous inspirer. Mais elle ne doit pas être le moteur de nos vies. Elle ne doit pas être ce qui nous fait nous lever tous les matins. Ce n'est pas leur parole qu'on doit chérir. C'est la parole de Dieu dans notre cœur uniquement. Je fléchis les genoux. Nous aurions écrit « Je prie ». Je trouve remarquable la formulation. Je fléchis les genoux. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu si nos genoux ne sont pas fléchis. Dans l'Ancien Testament, il aurait pu dire et écrire « Je fléchis ma nuque, je baisse ma tête. » Puisque vous savez que le peuple d'Israël était connu comme étant un peuple au cou raide, incapable de se soumettre. C'est de ça dont il s'agit. Incapable de se soumettre, avec toujours ce corset dans le dos qui fait que la tête reste droite. Ce caractère qui fait que même si je veux dire à Dieu « Oui, prends ma vie », au dernier moment, ça se redresse. Et Dieu ne peut pas accomplir les choses qu'il veut accomplir dans nos vies. Il ne peut pas travailler dans ma vie. Il ne peut pas travailler dans la vie de mes frères et sœurs à cause de mon incapacité à baisser la tête et à plier le genou. Peut-être que Paul était à genoux lorsqu'il écrivait. Mais je ne pense pas. Je pense que c'était une disposition de l'esprit. Lorsqu'il disait « Je fléchis le genou », c'est mon être entier qui est fléchi devant Dieu, devant celui qui m'a sauvé de façon si miraculeuse sur le chemin de Damas, devant la lumière merveilleuse de Dieu qui s'est adressée à moi ce jour-là. Devant ce Dieu éternel et incompréhensible, je fléchis le genou. N'est-ce pas? Si nous voulons servir Dieu, dans quelque domaine que ce soit, la première des choses qu'il faut apprendre, c'est celle-ci. C'est devenir flexible pour que lorsque nous fléchissons, nous ne nous cassions pas. Devenir flexible pour que la soumission à Dieu soit quelque chose de constant. Et pas quelque chose qu'il faut répéter dimanche après dimanche. Seigneur, j'ai bien démarré lundi. Mardi, c'était un peu moins bien. Et mercredi, c'était déjà catastrophique. Vivement dimanche. que je puisse recommencer. Est-ce que vous comprenez qu'en même temps que l'Épître aux Éphésiens nous parle de la naissance de l'Église, de la fondation, de la conception, de la croissance et de son accomplissement, c'est aussi de nous dont il parle. Notre vie doit être une progression. Elle ne doit pas être un éternel recommencement. On ne doit pas sans arrêt revenir à la conception des choses. Mais s'il n'y a pas de soumission, il n'y a même pas de départ. Il n'y a pas eu de commencement s'il n'y a pas eu de soumission avant. Israël avait pour habitude d'abandonner Dieu pour un autre Dieu. Et souvent, c'était le Dieu Baal. Et si vous lisez dans l'histoire avec les sacrificateurs, Dieu avait, je ne me rappelle plus, conservé, je crois, 7000 hommes et femmes qui pliaient le genou devant, je crois que c'est ça, 7000 qui pliaient le genou devant lui. C'était ça? Qui n'avait pas plié le genou devant Baal, mais qui pliait le genou devant lui, en tout cas. Voilà, que nous fassions partie de cela. Je fléchis le genou devant le Père. Là, le mot, c'est un autre mot. En grec, c'est le pater. Moi, je disais ça quand j'étais jeune. Je vais voir avec mon pater. Quand je parlais de mon papa, à moi. On disait ça comme ça, je sais pas, ça se dit encore? C'est dépassé, non? Les jeunes disent, je vais voir avec mon vieux maintenant, c'est ça? Pardon? Mon boss. Et moi, je disais avec mon pater. Je ne savais pas que je faisais du grec, en fait, à l'époque, quand je disais. Oui. Donc, je ne savais pas que je faisais du latin. Mais en grec, c'est pater aussi. Il faut regarder. Parce que j'ai regardé le grec, j'ai pas regardé le latin. Parce que ensuite il y a les familles et c'est patria. Donc on va mettre ça au point plus tard. Mais je vais regarder. Je vais quand même pas me laisser rendre ridicule comme ça. En tout cas, là où j'ai regardé, c'était marqué grec, donc faudra qu'on voie. Mais je pense que Jeannette a raison de toute façon, n'est-ce pas? Pour en revenir au Père, parce que là, il s'agit de la possibilité d'appeler Dieu Père, n'est-ce pas? Et j'ai commencé en vous disant que Dieu était incompréhensible, mais que au travers de la révélation et la progression de sa révélation, Dieu est devenu plus proche des hommes. Et l'apôtre Paul pouvait l'appeler Yahvé, l'Éternel, aussi bien que le Père. Et là, il parle du Père. Mais pour Dieu, est-ce que nous posons la question de ce que ça signifie pour Dieu que de se laisser appeler père ou papa? On le dit facilement. On dit facilement papa. Vous savez pourquoi on peut le dire? Parce que Jésus lui-même l'a dit. Jésus l'a dit lorsqu'il était tout près de la croix. papa. Et c'est parce que nous sommes en lui, en Jésus-Christ, que nous pouvons appeler Dieu papa. Dieu n'est pas le papa des incroyants. Dieu n'est pas le père de ceux qui ne croient pas en lui. Il devient le père uniquement lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous avons reçu la nature de Christ, lorsque nous avons reçu l'esprit d'adoption dont il parle dans Éphésiens. Alors, nous pouvons dire à Dieu, Papa. De toute façon, ça ne ferait pas de sens avant cela. Ça ne ferait pas écho pour n'importe qui de dire « Dieu, c'est mon papa ». Mais lorsque l'on a commencé à cheminer avec Christ, alors, d'appeler Dieu papa prend toute sa signification. Et vous savez, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais lorsqu'on n'a pas eu un vrai papa, lorsque le papa était manquant, de n'importe quelle manière que ce soit, il a pu être présent, mais inexistant. Il a pu être présent et méchant. Il a pu être présent, mais ne pas éduquer ses enfants. Alors, lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a là une place pour chacun de ceux-là, pour appeler papa le Dieu qui, lui, a su parler à notre cœur. Appeler papa celui qui a su toucher notre âme au bon endroit. Et lorsqu'on apprend la parole de Dieu, lorsqu'on retient les choses de la parole de Dieu, c'est important de se concentrer sur ces passages-là, où Dieu est notre Père. Celui qui nous fait du bien. Celui qui nous aime de la meilleure manière qui soit. Celui qui a les mots pour nous encourager. Celui qui a les mots pour nous rendre plus forts. Celui qui a les mots pour nous faire avancer dans la vie, alors que tout est difficile. C'est une grande souffrance pour un homme ou pour une femme de ne pas avoir eu un père à la hauteur. D'une certaine manière, on n'est jamais à la hauteur, je veux bien vous l'accorder. Mais il y a des choses extrêmement importantes que le père doit montrer et faire avec ses enfants. Ne serait-ce que la correction. Corriger ses enfants, c'est un acte d'amour ou c'est un acte de haine? Tout dépend où vous vous placez dans le temps, tout dépend dans quel pays vous vous placez. Si vous mettez en colère avec des idées de meurtre lorsque vous corrigez votre enfant, c'est un acte de haine. C'est un acte destructeur. Si vous donnez une fessée en faisant attention qu'elle ne soit pas trop forte et que votre cœur est dans la paix, c'est un acte d'amour. Aujourd'hui, on peut aller en prison pour ce genre de choses, n'est-ce pas ? Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Et là, nous avons le terme grec patria, Et donc, le Pater est le Père des familles qui sont dans les cieux et sur la terre. L'Église, c'est nous, aujourd'hui, vivants, présents, là, maintenant. Mais c'est aussi toute la foule de ceux qui sont morts déjà, depuis longtemps. Ils forment l'Église, présente déjà dans les cieux. Et les familles sont là, celles qui sont là-haut, dans les cieux. Et nous qui sommes là sur la terre, nous formons la famille de Dieu. Et là aussi, si vous n'avez pas eu de vraie famille, c'est pour ça qu'on peut dire qu'ici, c'est ma famille. Quand on est parti longuement en vacances, après une semaine, dans les gens du Nord, quand ils sont partis 4 jours, ils sont contents de rentrer, n'est-ce pas, José? Je rentre dans ma famille. Mais c'est merveilleux de pouvoir le dire. Il y a des familles, on n'a pas envie d'y aller. Il y a des familles, on a juste envie de repartir. Je me rappelle que nous avions une partie de la famille où de temps en temps nous allions et que j'allais avec mon père. J'étais terrorisé rien qu'à l'idée d'y aller. Ça n'était que cris, hurlements, alcool, tout ce que vous voulez. J'étais terrorisé, je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Évidemment, j'avais là de la famille. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Vous êtes la famille, la patrie du Père. Mais il faudra articuler un peu mieux, parce que des fois, on n'entend pas ce que tu dis. Selon la richesse de sa gloire, puissamment fortifiée. Le mot pour gloire en grec, c'est doxa. C'est un terme qui, de la même façon que Dieu, est quasiment incompréhensible à expliquer. La doxa, se voit plus facilement, finalement, qu'elle ne s'explique. Comment dire ça ? D'une certaine manière, c'est les idées, ou l'idée, la grande idée. Mais on ne peut pas dire la gloire de Dieu ou la grande idée de Dieu. Ça n'a pas tellement de sens. Pour définir un peu le mot, on peut dire que c'est ce qui est exprimé par de différentes caractéristiques chez une personne, notamment la gloire d'une personne ou la gloire de Dieu. Ce serait, par exemple, sa façon d'être, sa dignité, sa majesté. Ce serait sa richesse matérielle. Et aussi sa personnalité, sa richesse intérieure. Tout ce qu'elle exprime dans ses idées, dans les choses qu'elle crée, les choses qu'elle invente, toutes ces choses-là expriment la gloire d'une personne ou la gloire de Dieu. Il y a un chronique, c'est le seul verset qui peut-être exprime cela de façon un peu complète pour Dieu. Un chronique 29. verset 11, c'est lorsque David va passer le flambeau à son fils, Salomon, lorsqu'il a tout préparé pour le temple, pour la construction. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. » Je crois que là, on a une sorte de expression de ce qu'est la splendeur de Dieu, la majesté de Dieu, et qui exprime faiblement, avec des mots d'homme, la magnificence et la gloire de Dieu. Selon la richesse de sa gloire. Si on ne peut pas l'expliquer vraiment, la gloire, c'est quelque chose qui se voit. Paul dit que finalement, dans ses tribulations, dans ce qu'il souffre, ne perdez pas courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Je souffre pour que vous deveniez forts. Je souffre pour que vous obteniez les richesses de Dieu. Je souffre pour que vous soyez bénis. Vous comprenez? C'est que ce que moi je vis va vous apporter à vous quelque chose de supplémentaire. Va vous apporter à vous de la résistance. Va vous apporter à vous de la force dans l'homme intérieur, au verset 16. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est de cela, n'est-ce pas, que nous avons besoin. C'est que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Et le problème, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour l'homme extérieur. On fait beaucoup de choses pour l'apparence. On fait beaucoup de choses, et c'est le terme, pour être bien vu. N'est-ce pas? Et ce qui est à l'intérieur, c'est caché, donc on peut négliger un peu, mettre une façade, et faire en sorte que l'on soit bien vu. Et lorsqu'on commence à être mal vu, il suffit de s'éclipser. Lorsqu'on sent qu'on n'arrive plus à assumer, on peut juste partir, on peut quitter, on peut être lâche. Parce que la lâcheté, c'est une qualité universelle aujourd'hui. Ne pas assumer ses responsabilités jusqu'au bout nous est grandement facilité par la loi même. Lorsque ça ne va plus, eh bien je divorce. C'est si facile. Je n'ai pas besoin de me remettre en cause. Je peux dire c'est de sa faute. Et moi, je m'en vais. L'apôtre Paul dit, je souffre pour que vous ne deveniez pas comme ça, mais pour que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Verset 18, comprendre avec tous les cinq, et la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ces deux phrases, rien que ces deux phrases ont de quoi nous faire exploser le cerveau. Je suis désolé, mais c'est inimaginable ce qu'il y a dedans. La connaissance de l'amour de Christ est capable de nous amener à une expérience de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire quelque chose que l'âme humaine n'a jamais connu. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer même qu'il est possible de vivre. Connaître, c'est naître avec, c'est être intimement lié. L'amour de Christ. C'est marcher dans une vie. Comment ? Insatisfaite ? Une vie qu'à un quart ? Une vie où on se lève le matin et on se dit : « Oh, aujourd'hui ça va pas, je me suis pas levé du bon pied. » Ou une vie où on se dit : « Ah, quand même, mon caractère, c'est quelque chose. Je n'arrive pas à m'en défaire. » Vous comprenez? Lorsque ça ne va pas, on trouve beaucoup d'excuses. Et on peut avoir raison. On peut avoir effectivement un caractère colérique, on peut avoir un caractère difficile, on peut être trop comme ceci, pas assez comme cela, avoir beaucoup d'imperfections, et être tellement omnibulé par ces imperfections que la foi qu'il nous est nécessaire de mettre en œuvre pour recevoir l'amour de Christ. Comme disait notre frère, que cette foi, cette porte de la foi, est fermée. Et que nous passons à côté de la plénitude. Nous n'avons pas besoin de vivre tourmentés. Nous n'avons pas besoin de subir la tyrannie de sa propre personnalité jour après jour. Nous n'avons pas besoin de subir la dictature de toutes les espèces de tensions qui existent dans le monde ou autour de nous, tout simplement, jour après jour. Et c'est de cette expérience-là dont parle l'apôtre Paul. C'est parce que lui l'a expérimenté. Je rappelle qu'il est en prison. Si vous lisez l'épître aux Philippiens, il est en prison également. Et cette épître, c'est l'épître de la joie. Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous toujours ! Comment est-ce qu'on peut dire ça lorsqu'on est en prison ? C'est parce que l'amour de Christ, qui surpasse que nous connaissons l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'était le pasteur Wim Brand qui disait que les plus beaux moments de sa vie, les moments les plus exaltants spirituellement, c'est en prison qu'il les a connus, dans les prisons roumaines, où les geôliers étaient des tortionnaires. C'est là, alors qu'il était à la limite de la folie, qu'il a connu ses plus grands moments d'exaltation avec Dieu. Ça doit nous faire réfléchir. Comment est-ce que Dieu nous fait connaître la plénitude ? Il y a son amour, certes. Mais si vous lisez l'épître aux Éphésiens,
vous allez être surpris, de la place, et je l'ai lu dans Chronique également, de la place de deux mots, ou d'un mot, c'est la force et la puissance. Dieu et Jésus-Christ. Et je vous en conjure, sortez les images d'Hollywood que vous avez sur qui est Jésus-Christ. Sortez les images d'un Jésus-Christ social. Sortez les images d'un Jésus-Christ thérapeute, d'un Jésus-Christ psychiatre ou autre chose. Mais relevez que Jésus-Christ est puissant et fort. Et que c'est par sa puissance et par sa force qu'il vous extirpera des griffes du malin. C'est par la volonté de sa puissance et de sa force qu'il fera que l'Église qu'il a conçue dès avant la fondation du monde arrive à son terme et remplisse le but éternel qui lui a été attribué. Et à cause de cela, Christ fera tout pour que nous, qui composons son Église, puissions vivre dans la plénitude. Et j'aimerais dire plus, il ne vous laissera pas tranquille une seule seconde afin que vous puissiez expérimenter cette plénitude. Je dirais même qu'il vous fera passer par des moments difficiles, peut-être d'angoisse, terribles, pour que vous arriviez à connaître la puissance de Dieu. Je ne parle pas de cette puissance dont on entend parler sur Internet, de ces soi-disant grands hommes de Dieu qui font de grandes choses. Je ne parle pas de ça. Mais c'est la puissance de l'Éternel, celui qui est incompréhensible, qu'on n'arrive pas à décrire, qui s'est volontairement réduit en Jésus-Christ, qui par la résurrection et la force de son sang permet que nous puissions être pardonnés complètement de chacun de nos péchés. Que nous ne vivions plus dans le péché, mais que aussi tous ces péchés qui, vous savez, qui restent comme des taches, qui nous poursuivent, qui nous hantent, tout cela qui fait que notre vie d'aujourd'hui est peut-être un calvaire, eh bien Dieu a la force et la puissance de les évacuer complètement de notre vie pour que nous rentrions dans la plénitude, pour que nous connaissions cette paix dont il a été question ce matin. Alors, fléchissons le genou, afin que nous puissions recevoir cette plénitude. Seigneur notre Dieu, nous sommes bien incapables de te comprendre complètement. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est toi qui nous comprends. Parce que déjà tu nous portes en toi depuis dès avant la fondation du monde. Tu connais chacun de nos cœurs et les réalités, Seigneur, de notre vie quotidienne. Mais tu veux aussi que nous connaissions les réalités de la rédemption. Tu veux, Seigneur, que nous connaissions quel est ton amour, certes, mais quelle est aussi ta force et ta puissance pour nous délivrer de façon définitive. Seigneur, nous voulons marcher dans la plénitude. Parce que, Seigneur, c'est ce qui suit dans le livre d'Éphésiens. Marcher. Seigneur, nous voulons avancer à grands pas dans ce terrain, Seigneur, que tu nous as donné de conquérir. Et nous voulons marcher avec la force de ton nom en nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons que la gloire de Dieu soit notre gloire. Que les puissances qui nous environnent puissent être impressionnées par la lumière qui exhale de la gloire de Dieu. Seigneur, que nous puissions te recevoir en nous et connaître l'amour de Christ, afin, Seigneur, que quotidiennement nous vivions dans la plénitude. Seigneur, que notre vie soit une progression et que nous puissions connaître une plénitude absolue lorsque nous te verrons face à face. Seigneur, nous ne voulons plus prendre de retard, mais nous voulons avancer vers le but avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.